Bonjour et merci d'être aussi nombreux à écouter le Grand Face-à-Face tous les samedis. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h, la semaine des humoristes, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis nous reviendrons tout à l'heure sur l'événement qui a dominé la semaine, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Après le choc et la sidération, sont vite arrivés la mobilisation, les projets de reconstruction, mais aussi le débat et des polémiques. Qu'est-ce qui nous a tous si profondément touchés dans cette catastrophe? Cette émotion était-elle justifiée ou disproportionnée? Faut-il reconstruire ou restaurer Notre-Dame? La réparer ou la rebâtir façon 12e, 19e ou 21e siècle? Notre-Dame de Paris figure dans la liste des lieux de mémoire et qui de mieux pour en parler que celui à qui nous devons cet autre monument? L'un de nos grands historiens, figure majeure de la vie intellectuelle française, Pierre Nora de l'Académie sera notre invité tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour.
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 Natacha, bientôt comédienne, après avoir été journaliste, écrivain, vous serez peut-être à l'affiche du prochain film de Jean-Luc Godard.
Non, disons qu'il a, et j'en suis profondément honorée, cité mon nom comme quelqu'un qu'il aimerait utiliser dans son prochain film sur les Gilets jaunes. C'est tout. Et j'en suis, encore une fois, honorée, flattée, d'autant que j'adorerais voir ce que donnerait Jean-Luc Godard sur ce moment politique absolument passionnant.
Et nous, on adorerait, Gilles et moi, aller vous voir dans un film de Jean-Luc Godard sur grand écran. Avant votre duel, la semaine des humoristes, mise en onde par François Audouin. Et cette semaine, nos amis humoristes ont été marqués, comme nous tous, par l'incendie de Notre-Dame de Paris, à commencer par Daniel Morin.
Notre-Dame de Paris a brûlé. Jamais on aurait pensé dire ça un jour. C'est comme de dire la Tour Eiffel a fondu. Ou encore, Balkany est peut-être honnête. Ou plus bizarre encore, tiens, je passerai bien un week-end à Châteauroux. Non, ça fait partie des choses qu'on n'imagine jamais. Alors bien sûr, on est triste. On est si triste. Et quand on est triste, on est sans voix. Puis on regarde les réseaux sociaux. Comme ça, par habitude, on n'attend rien. Et on est rarement déçu, car il est souvent au rendez-vous, le rien. Et puis, sorti de nulle part, arrivent les tweets des complotistes. Morceau choisi. Comme par hasard, Notre-Dame de Paris brûle juste avant que Macron prenne la parole. Il avait rien à dire, ça l'arrange bien. Alors les gars, comment vous dire? Je suis pas le premier fan d'Emmanuel Macron, mais sincèrement, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron se soit dit hier à 2h de son allocution télévisée.
Merde, j'ai rien à dire, je sais pas quoi dire, j'ai pris aucune décision suite à ce putain de grand débat. Je suis dans la merde, faut faire diversion. Allô, Benalla, tu prends un briquet, tu vas mettre le feu à Notre-Dame. Oui, Notre-Dame de Paris, pas Notre-Dame-des-Landes, pauvre con. Allez, magne-toi.
Non, je pense pas que le président aurait demandé qu'on mette le feu à Notre-Dame, non.
Et même Tanguy Bassureau a pleuré.
Oui, lundi soir, quand c'est arrivé, j'étais sur le point de chialer, mais je suis un mec à l'ancienne et j'ai retenu mes larmes. Je suis old school. Et puis, Notre-Dame qui brûle, c'est affreux. Ça aurait dû être l'Arche de la Défense, la Pyramide du Louvre, les colonnes de Buren, toutes ces petites merdes semées par Jack Lang qui auraient eu la même existence qu'un lapin. Quand j'ai vu Stéphane Bern les larmes aux yeux à la télé, j'ai eu tellement pitié que je me suis surpris à espérer qu'il nous éclate au prochain sondage radio, afin que ça le console un peu. Et puis, il risque d'y en avoir d'autres, parce que historiens de l'art spécialistes disent par exemple que l'église de la Madeleine, plus connu sous le nom d'église à Johnny. Il y a plus de bananes là-dedans qu'au rayon fruits chez Franprix. Pourrait y passer elle aussi. Ils expliquent que rien n'est aux normes. Il y a des prises électriques qui pendent et toutes les églises tombent en ruine. Et le patrimoine en général. On met 2-3 bouts de scotch, on fait à notre héritage architectural ce que les Algériens ont fait pendant longtemps sur Bouteflika. Un peu de colle à bois, on pense que ça va tenir.
Une émotion partagée par tous les Français. Témoignage au micro de Guillaume Meurice.
Mais alors, ce que je déplore fortement, c'est et la mairie d'Algo, toute la clique, c'est des connards ces gens-là. Moi j'en ai ras-le-bol de la mairie d'Algo, avec tous les trous partout. On attend les bus plus de 25 minutes maintenant, mais il faut la virer cette bonne femme.
Alors est-ce que là il y a un rapport entre Anne Hidalgo et l'incendie?
Elle est nulle.
Elle est nulle en tout, en bus, en extinction d'incendie, elle est nulle. Franchement, si vous avez un feu de cheminée ou un nid de poule, n'appelez pas Anne Hidalgo, elle est nulle. Là elle est venue, elle n'a même pas de seau pour éteindre, elle est venue comme ça avec son sac à main à la con, même pas un Vélib, elle n'a rien du tout. Bon, je suis d'accord avec cette dame, d'ailleurs j'ai continué avec la dame.
Là, comment elle aurait pu réagir?
Trump a dit, un Canadair là-dessus, il avait une idée, mais enfin de toute façon...
C'est vrai qu'il avait une idée.
Il a eu une idée, mais bon.
Mais bon, voilà, on n'est pas ambitieux en France, voilà, ça c'est le problème, voilà, ils ont les experts Miami, on a Joséphine Ange-Gardien, ça c'est les Américains. Trump, il a eu l'idée du Canadair, 600 tonnes d'eau, on rase tout, on fait un Burger King, c'est quand même pas compliqué, bordel. Il est comme ça, Trump, mais ouais, mais c'est les solutions, quoi. Quand il voit un enfant en flamme devant lui, il éteint un coup de pelle, voilà, ça c'est l'efficacité, c'est Trump, voilà.
Notre-Dame sauvée par les pompiers de Paris. Dès le lendemain, le mot d'ordre était à la reconstruction. Un élan de générosité a permis de réunir près d'1 milliard d'euros. Et grâce notamment au grand patron français. Écoutez ce qu'en dit Charline Vanhoenacker.
Dieu bénisse leur rivalité. Quand mardi matin, la femme de Bernard Arnault a lu sur le site des Échos que cette enflure de breton de François Pinault a mis 100 bâtons sur le tapis. Bernard, s'il te plaît, mais réagis enfin. Oui, Bibiche, je vais donner le double, tiens, 200 millions. Pendant ce temps-là, dans le salon de 300 mètres carrés de la famille Bettencourt, la nouvelle a surgi. Quoi ? Chez le VMH, ils ont mis 200 patates ! Eh ben chiche, nous aussi. Résultat, c'est la stupeur chez les Pinault. Ah, les salauds, François ! Ils ont mis le double. Ne les laisse pas nous humilier, sinon c'est horrible. Les gens vont penser que nous sommes pauvres. T'en fais pas, Bibi, j'ai la solution. On va dire qu'on renonce à nos réductions d'impôts. Mais pendant ce temps, chez les Arnaud, Bernard ! Mais même les Restos du Cœur ont filé 50 000 boules. Quoi, les Restos du Cœur ? Mais non, Bernard, c'est une blague ! Ils ont plus une thune, ils arrivent même plus à boucler leur budget. Oh, ce qu'on rigole. Alors vous imaginez leur réaction à tous quand ils ont appris que Martin Bouygues n'avait donné que 10 millions. Quel salaud de gauchiste, je le savais. Bientôt, notre cathédrale sera à la fois la maison de Dieu et la niche fiscale des grandes entreprises. Ils se disent que placer quelques actions au ciel leur permettra d'être dans ces petits papiers. Pour une fois qu'ils investissent dans un paradis qui ne soit pas fiscal, gardons-nous de le leur reprocher.
C'était la semaine des humoristes. À suivre le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Et on va commencer par ce que devait annoncer le président de la République si Notre-Dame n'avait pas brûlé. Une déclaration solennelle enregistrée, un discours qui a été distribué à certains médias et une proposition qui a retenu l'attention, la suppression de l'ENA. Et pourtant, souvenez-vous.
Je vous donne le sentiment d'être fait dans un moule ? Bah non. L'ENA, c'est pas un moule, c'est un moule pour qui veut le devenir ou qui l'avait déjà. L'ENA, c'est une école dans laquelle on rentre par un concours de la République. Et vous savez, avant que ce soit l'ENA, c'était quoi ? C'était le recrutement par copinage, par concours de bonne manière, parce qu'on avait un parent ou un cousin qui était déjà dans la fonction publique. Moi, je préfère les concours de la République. Ils sont méritocratiques.
C'était Emmanuel Macron le 7 janvier 2017 à Clermont-Ferrand. Alors, il a le droit de changer d'avis, mais la suppression de l'ENA, est-ce que c'est une bonne idée, Natacha ?
Alors, ce n'est pas exactement la suppression de l'ENA qu'il avait visiblement en tête, puisque quand on interroge ses proches sur cette proposition, on s'aperçoit qu'il s'agit avant tout de faire évoluer le recrutement de la haute fonction publique en arrivant un petit peu en aval, c'est-à-dire ne pas faire rentrer des jeunes gens de 25 ans qui n'ont jamais rien vu et leur donner les plus hauts postes de la République. Il s'agit d'aller voir, de recruter des gens qui ont déjà acquis une expérience, qui connaissent un tout petit peu le pays. Et je trouve que c'est pas complètement idiot. Dans l'extrait qu'on vient de passer, Emmanuel Macron a raison. Avant l'ENA, il y avait une cooptation par le milieu social, par les connaissances. Ça n'était pas mieux. En revanche, l'ENA a peu à peu été dévoyée. Et la question, c'est celle de l'idéologie qui imprègne notre haute fonction publique et qui est transmise à l'ENA. Mais encore une fois, faire en sorte que des gens qui connaissent le pays, qui ont vécu, qui ont une expérience, puissent arriver au plus haut poste, ça me semble pas idiot.
Gilles.
Oui. Dans les sociétés primitives, on faisait des rites sacrificiels en dansant autour du feu. Dans les sociétés modernes, il y a des symboles. Et donc là, le dernier scalp, c'est l'ENA. Ça m'est en réalité assez indifférent. La question est pourquoi et par quoi on le remplace ? C'est la seule question qui me paraît digne d'intérêt et qui est pour le coup une question vraiment digne d'intérêt parce que dans un pays comme la France dans lequel l'État, la puissance publique joue ce rôle, eh bien la formation, le recrutement des hauts fonctionnaires est une question très importante. Donc la question est quel est le problème ? Quel est le problème ?
L'énarchie.
L'ENA.
Est-ce que c'est l'énarchie ?
Alors, ça ne veut rien dire.
C'est une phrase qui est vieille de 50 ans qui dit c'est l'énarchie qui représente maintenant dans notre pays le visage du pouvoir. C'était dans l'énarchie de Jacques Mandrin. Le gouvernement de la France par les énarques. Est-ce que c'est ça le problème ?
Jacques Mandrin, alias Jean-Pierre Chevènement. Oui. Cette idée.
Bien sûr, c'est un livre de Jean-Pierre Chevènement, l'énarchie.
C'est un pseudo.
Oui. J'ai retrouvé pour la première fois, moi, la trace de cette idée de la suppression de l'ENA, une de l'Express en 1971. Donc, c'est pas un élément très, très neuf. L'énarchie, ça ne veut rien dire. La question, c'est où est le problème ? Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est la question du recrutement de la diversité sociale de ceux qui arrivent à l'ENA ? Est-ce que c'est la question du pendant, c'est-à-dire la formation qui est dispensée aux énarques ? Est-ce que c'est le après, c'est-à-dire la manière dont ils sortent et le classement de sortie, l'entrée dans les grands corps ? C'est ça la question, et on n'a évidemment pour l'instant pas d'éléments de réponse sur ce que le président de la République entend changer.
Mais l'énarchie quand même, plus d'un président de la République sur 2, 10 premiers ministres sur 18 depuis 50 ans, ça ne dit rien.
Si, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Gilles, à savoir qu'il faut étudier la question de l'avant, du pendant et de l'après. Et je crois que les trois posent problème dans l'ENA. Il y a un problème qui est un problème de long terme et qui se réglera très difficilement, c'est la question de la démocratisation de l'accès aux grandes écoles. Mais c'est une question en fait de remise, de refondation de l'école républicaine dès le plus jeune âge. Il y a la question de l'idéologie, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui enseigne, qui décide, quelle est la bonne gouvernance. Et à partir ce terme de gouvernance est devenu synonyme en fait de ce règne des experts qui estiment qu'ils savent mieux que les peuples ce qu'il est bon de faire. Et il y a l'après, c'est-à-dire le fait que non seulement le fait que immédiatement ces jeunes gens arrivent dans les grands corps et pétris de leur génie, puisqu'on leur a expliqué qu'ils étaient les meilleurs de la nation, mais surtout parce qu'ensuite, ils pantouflent. C'est-à-dire qu'ils passent du privé au public et que donc leur carrière, ils font désormais carrière, et leur carrière influe sur leurs décisions et
leur
vision du monde.
Pour ceux qui ont eu accès à l'inspection des finances, au Conseil d'État, éventuellement à la Cour des comptes. Gilles Finkelsheim.
Oui, si je reprends les trois points de Natacha, sur le recrutement, je crois qu'elle a raison de dire que si c'est une pyramide, le problème n'est pas seulement le haut de la pyramide, le problème est la base. Et donc le travail qui est fait dès l'école maternelle pour éviter la reproduction sociale, c'est ça le travail. Évidemment, ça prend beaucoup de temps. Même si, en réalité, il n'y a peu eu de démocratisation de l'accès à l'ENA. C'est toujours les enfants, des familles, des cadres supérieurs qui y entrent massivement. En revanche, il y a eu une féminisation qui est une féminisation réelle. Il y a eu une régionalisation qui est aussi une régionalisation réelle. Mais donc, il y a ce problème de recrutement. Sur le pendant, léger désaccord, je pense pas que le problème soit l'idéologie, ou soit pas le problème principal, ne soit pas l'idéologie qui est enseignée à l'ENA. Je pense que l'ENA doit être de plus en plus une école d'application. Les gens qui rentrent à l'ENA ont passé un concours très difficile, ils ont les connaissances. En revanche, ils ont peu d'expérience. De ce point de vue-là, l'école a malgré tout déjà pas mal évolué, mais c'est encore vers ça qu'il faut aller davantage. Enfin, sur l'après, d'accord et d'accord mille fois, il y a une forme d'hyper-aristocratie d'État de jeunes pour ceux qui rentrent directement à l'ENA, parce que quand même la moitié de ceux qui rentrent à l'ENA sont des fonctionnaires après 5 années d'expérience, mais chez les jeunes, et sortent après avec une aristocratie d'État dont la vie tout entière est guidée par la réussite non seulement au concours mais au classement de sortie.
Encore un mot, Natacha, sur le sujet ?
Encore un mot sur le fait que pourquoi je dis qu'il y a un problème d'idéologie, c'est-à-dire que il y a dans l'enseignement qui est donné dans les grandes écoles que sont Sciences Po, l'ENA, etc., une vision de la gestion des comptes publics, une vision de la façon dont on administre un pays qui est excessivement uniforme. Et le recrutement se fait aussi sur la capacité à accepter cette vision-là.
Depuis 1969, il n'y a que 3 présidents qui n'étaient pas énarques. Georges Pompidou, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy. Gilles, encore un mot et on change de sujet.
Oui, je crois que le problème c'est moins l'administration, qu'ils ne savent pas bien faire l'administration des choses que l'administration des hommes. Il y a un gros problème sur la formation au management, sur la formation à la communication. Et puis peut-être une proposition, si on supprime l'ENA, il faut lui trouver un autre nom. Et donc ça pourrait être l'Institut supérieur des fonctionnaires, ça serait l'ISF, et ça permettrait de le rétablir.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Et puis cette semaine, comme un adieu aux armes.
Face à ces perspectives angoissantes, l'Europe se révèle impuissante. Pire, elle paralyse les réactions nationales qui devraient mobiliser les peuples qui la constituent. Députés, qui êtes restés aveugles, sourds et muets, la postérité vous maudira.
Après 35 années passées à siéger au Parlement européen, Jean-Marie Le Pen a prononcé mardi son dernier discours à Strasbourg devant les eurodéputés. L'occasion de rejeter encore une fois cette institution, et puis parce qu'on ne se refait pas.
J'attends encore qu'on me démontre, mais je ne la prononcerai pas parce que je risque d'être de nouveau condamné. La formule que j'avais dite et qui était relative à un détail. Un détail n'est pas une formule méprisante ni agressive.
C'est donc, je le disais, Jean-Marie Le Pen, là pour le coup, dans une vidéo et dans un entretien qu'il donnait au journal L'Opinion et sur lequel il revenait sur cette histoire de détail de l'histoire. Gilles, est-ce qu'il manquera à la vie politique française ?
Écoutez, je n'en suis pas sûr. Il me manquera pas beaucoup à moi. En tout cas, il a été persévérant parce que rester pendant 33 ans parlementaire européen sans rien y faire et en terminant en disant qu'il a eu pendant 33 ans un sentiment d'inutilité, ça, je dois dire que c'est quand même assez remarquable. Pour le reste, il a créé un parti politique, le Front National, au début des années 70, qui était un parti ultra marginal, qui n'a même pas pu recueillir les 500 signatures pour être candidat à l'élection présidentielle de 1981. Et il l'a laissé, au début des années 2010, un parti qui était un parti installé maintenant depuis de nombreuses années dans la vie politique française, même si c'est la succession, Marine Le Pen, qui lui a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui, avec un certain nombre de constantes, d'un parti qui refuse les alliances, d'un parti qui est contre l'Union européenne, d'un parti qui surtout, fondamentalement, est un parti qui est contre l'étranger et contre l'immigré, mais avec un certain nombre d'inflexions, et notamment le style, la question du détail, qui explique aussi que le Front National d'aujourd'hui n'est pas exactement dans l'opinion le Front National d'hier.
Natacha ?
Oui, la question du départ de Jean-Marie Le Pen est, somme toute, en elle-même assez anecdotique. Enfin, franchement,
c'est déjà fait.
Voilà, on s'en brosse le nombril avec le pinceau de l'indifférence, qu'il soit plus là. Le problème n'est pas là. Le problème est comment, petit à petit, des peuples, des citoyens ont été amenés à voter pour ce parti et à lui donner le poids qu'il a aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Quels sont les mécanismes qui ont donné sa puissance à Jean-Marie Le Pen et qui fait que encore maintenant, nous sommes là à regarder comme un événement ce qui, en fait, n'en est absolument pas un et qui n'a pas grand intérêt. C'est le fait
non pas un événement, mais disons que c'était une figure incontournable du paysage politique et qu'elle s'efface.
Oui, mais encore une fois, lui s'efface. La vie politique va être bouleversée par cela? Non, elle a été bouleversée pendant des années par le fait qu'il a parfaitement su utiliser les peurs et les angoisses de l'ensemble de nos sociétés, c'est-à-dire à la fois les peurs et les angoisses des gens qui allaient voter pour lui, par désespoir, par colère, et les peurs et les angoisses de tous ceux qui le jugeaient comme dangereux et qui lui ont donné cette audience. Et c'est une mécanique extrêmement perverse qu'il a réussi à instrumentaliser.
Une question pour tous les deux. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était un précurseur d'une certaine manière, ou est-ce qu'au contraire c'est celui qui a bloqué l'extrême droite en l'empêchant de pouvoir s'étendre, de pouvoir éventuellement un jour prétendre participer au pouvoir? Gilles ?
Je pense qu'il a contribuer par ses qualités propres à la développer, et il l'a empêché par ses propres défauts d'aller plus loin. La question est jusqu'où peut-elle aller maintenant ? Vous avez cité ses héritières, la nièce et la fille. Une très longue et très instructive interview de Marion Maréchal Le Pen dans Valeurs Actuelles il y a quelques jours, et un changement de pied, en tout cas un changement de pied apparent du Rassemblement National dans son programme pour les élections européennes. On a beaucoup entendu, et les médias n'ont retenu en réalité que ça, le Rassemblement National abandonne la sortie de l'euro et le Rassemblement National fait un tournant écologique. Je me suis intéressé au programme, je l'ai donc lu dans le détail. C'est une formidable supercherie. Quand on regarde et qu'on fait la liste de l'ensemble des propositions, on supprime la Commission européenne, on supprime la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, les accords de Schengen à l'intérieur de l'Union européenne. On arrête la politique agricole commune, on supprime le budget européen, on supprime la Cour européenne des droits de l'homme, on supprime la Cour de justice des communautés européennes et on supprime, personne ne l'a souligné, l'élection au Parlement européen des députés, de députés français. Tout ça, c'est autre chose que 60 ans d'histoire de l'Union européenne. Donc il faut avoir le courage de l'assumer. On peut essayer de comprendre les raisons pour lesquelles, les raisons tactiques pour lesquelles Marine Le Pen fait ce changement de pied. Mais sur le fond, rien n'a changé.
Non, mais la position du Rassemblement national sur les questions européennes, en effet, sur le fond, n'a pas changé. Simplement, ce qui apparaît de la part de Marine Le Pen, c'est un changement tacticien, c'est-à-dire l'utilisation de ce qui se passe ailleurs en Europe pour essayer de se positionner comme un parti qui a des alliés, comme un parti qui peut peser face aux autres et qui n'est plus isolé. Or ça, c'est un événement majeur. C'est une modification absolument majeure. Mais en effet, l'Union européenne que dessine le Rassemblement national ne change absolument pas par rapport à ce qu'il y avait avant. En revanche, le problème, c'est que cette alliance qui est espérée par le Rassemblement national est tout sauf certaine dans la mesure où tous ces partis-là, celui de Matteo Salvini, celui d'Orban, n'ont absolument pas les mêmes intérêts en Europe, ni la même vision de ce que doit être une démocratie occidentale aujourd'hui.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Et puisque vous parliez d'Europe, Natacha, on va s'intéresser aux élections européennes et à la campagne qui a commencé d'ailleurs, je vais le formuler avec un point d'interrogation, Gilles. Est-ce que cette campagne n'intéresse pas ? Comment expliquer que rien ne se passe autour des différentes candidatures, des différentes listes ?
Oui, on est à un moment où l'ensemble des listes sont connues, des têtes de liste sont connues, où la campagne est censée avoir commencé. Quand on interroge les Français sur leur intérêt, il y a plus de la moitié des Français qui expriment de l'intérêt pour cette campagne, ils ont un certain mérite. En revanche,
on peut les croire.
Pour le reste, rien ne se passe. Rien ne se passe sur l'évolution de l'intention de participer au scrutin. La courbe est absolument plate et extrêmement basse, puisque vous avez à peine 40% des Français qui disent vouloir aller voter. Et à peu près rien ne se passe sur l'évolution des intentions de vote. C'est-à-dire que c'est totalement plat. Quand il y a un sondage qui est réalisé de manière quotidienne par l'IFOP pour Paris Match, quand vous regardez par rapport au début du mois de mars, donc il y a maintenant 6 semaines, rien n'a bougé, c'est-à-dire à peine d'un demi-point. Donc rien. Juste la marge d'erreur, c'est vrai pour le Rassemblement National, c'est vrai pour les Républicains, on dit formidable les Républicains, François-Xavier Bellamy, il a progressé d'un demi-point par rapport au début du mois de mars. C'est vrai pour la France Insoumise, c'est vrai pour Génération. Il y a, disons, un très léger frémissement pour Europe et le Collège d'hiver et pour la liste du Parti Socialiste et de Place Publique qui ont progressé d'un peu plus d'un point et demi.
Et sa situation est exceptionnelle.
Et un très léger frémissement à la baisse pour La République En Marche qui a perdu 2 points. Mais enfin, tout ça est très très peu. Comme si, et peut-être que c'est le cas, la campagne n'avait pas commencé, et avec une question, est-ce qu'elle commencera un jour avant l'élection ?
Natacha ?
Hélas, tout le monde a intérêt à ce qu'elle ne commence pas vraiment, c'est-à-dire à ce qu'on ne parle pas des sujets de fond qui sont les sujets des choix de politiques européennes.
Quand vous dites tout le monde,
La République En Marche,
les Français n'y
ont
pas intérêt.
N'a toujours pas mis en avant un véritable programme avec des propositions précises. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, quelle est leur vision. C'est tout de même problématique, c'est censé être le premier parti. Mais c'est surtout que je pense que le désintérêt vient du fait que nous, médias, avons intégré le fait que l'Europe n'intéressait pas le public. Donc, on évite d'en parler.
C'est pas le cas dans le grand face-à-face et c'est pas le cas notamment dans Questions politiques où une série d'émissions spéciales consacrées à l'Europe.
Nous essayons d'en parler autant que nous le pouvons, mais avec en arrière-fond l'idée que, après tout, ça ne se vendra pas. Regardez, à Marianne, nous, on fait toutes les semaines un gros dossier Europe, on fait des choses spécial. En même temps, on ne sait absolument pas quelle va être la réception de cela, mais simplement, justement, cette semaine, on a fait un dossier sur comment l'Allemagne a petit à petit conquis tous les postes essentiels en Europe. Or, je pense que l'explication du désintérêt est en partie là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les citoyens ont l'impression que, de toute façon, ce vote ne changera pas les politiques européennes, ils n'arrivent pas à comprendre en quoi une élection au Parlement européen pourrait changer l'orientation générale de l'Europe. Ils ont l'impression que c'est plié et que c'est dirigé ailleurs. C'est ça aussi qui bloque.
Vous êtes d'accord, Gilles ? C'est ce qui explique l'atonie et éventuellement l'abstention à ce scrutin ?
Alors, en tout cas, c'est un bon débat de savoir si un des ressentis des Français, est-ce que c'est une réalité, c'est que l'Europe, c'est de plus en plus l'Europe allemande. Sur la stratégie d'occupation des postes, vous avez assez raison. Les Allemands, utilisant à la fois leur poids démographique et puis la force des grands partis, réussissent à avoir une influence déterminante. En revanche, sur le fond, Je suis moins convaincu que ça. J'avais été très frappé. Il y a exactement 2 ans, on avait organisé un séminaire avec une 30aine de fondations, de think tanks, de laboratoires d'idées, français et allemands, de gauche et de droite, sur l'euro. Que disaient les Français ? Ce que dit Natacha. Le problème de l'Europe, c'est que c'est l'Europe allemande. Que disaient les Allemands ? Et j'avais été très frappé, de gauche et de droite. C'est quoi le problème de l'Europe ? Politique monétaire, horriblement accommodante. Politique budgétaire, très laxiste, il y a encore des déficits.
C'est-à-dire que c'est pas assez l'Europe allemande.
Non, pas du tout. On va sauver la Grèce. Un plan d'investissement de 100 milliards d'euros. Le problème de l'Europe, c'est que c'est l'Europe française. C'est très important d'avoir ça en tête si on veut faire avancer l'Union européenne, c'est de comprendre ce que sont les représentations, les cultures des autres.
C'est bon pour l'ego national ce que vous nous dites, après tout, que les Allemands perçoivent l'Union européenne comme l'Europe française.
C'est pas du tout bon pour l'ego national parce que nous avons tous la conviction exactement inverse, c'est-à-dire que les Français ont le sentiment que c'est l'Europe allemande, les Allemands ont le sentiment que c'est l'Europe française, donc c'est pas bon pour l'ego et c'est pas bon pour l'Europe.
Je ne tragerai pas ça exactement comme vous. Je pense que il y a aujourd'hui une tentation à ne pas jouer le jeu européen, qui est beaucoup plus forte dans certains pays, comme par exemple l'Allemagne, mais sur d'autres plans, c'est d'autres pays. Hein. Sur le plan fiscal, certains pays ne jouent absolument pas le jeu européen. Et donc, on peut faire toutes les politiques qu'on veut au Parlement, débattre tant qu'on veut, à partir du moment où l'idée même d'une Union européenne agissant pour défendre les intérêts des citoyens européens n'existe pas, ça, c'est plié.
Un mot encore, Gilles, puisque vous connaissez très bien ces questions-là, l'idée avancée par plusieurs têtes de liste que finalement cette campagne va se jouer dans les 15 derniers jours, ça a un sens ou pas ?
Alors, ça a d'autant plus un sens qu'elle n'a pas commencé. Mais ça a un sens de plus en plus pour toutes les élections parce que le comportement des électeurs a changé. Là où il y avait de la fidélité électorale, il y a de la mobilité électorale. Et cette mobilité, elle, c'est-à-dire le fait de décider d'aller voter ou de ne pas aller voter, de voter pour telle liste ou pour telle autre liste, ça change et ça change jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière semaine, jusqu'au dernier jour au pluriel et jusqu'au dernier jour au singulier. Donc, gardez des forces tous. Les candidats, ça va être le moment de faire campagne et les choses peuvent encore bouger.
Et quant à nous, électeurs, nous sommes volatiles, c'est le mot qui convient ?
Nous sommes extraordinairement volatiles, c'est la démocratie, l'état gazeux dont je parle semaine après semaine.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec l'historien Pierre Nora.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons.
Nous voulions évidemment revenir sur l'événement qui a dominé la semaine. Lundi dernier, 18h50, Notre-Dame de Paris était en feu. Émotion nationale, mondiale. Après le choc et la sidération sont vite arrivés le temps de la mobilisation, les projets de reconstruction, mais aussi des questions, des débats. Qu'est-ce qui nous a tous si profondément touchés dans cette catastrophe ? Nous a-t-elle rappelé la fragilité des choses ou au contraire ce qui nous réunit, qu'on soit croyant ou pas ? Faut-il reconstruire, rebâtir ou restaurer façon 12e ou 21e siècle. Pour en parler, l'un de nos grands historiens, nous lui devons un autre monument, les lieux de mémoire. Pierre Nora de l'Académie française est notre invité. Bonjour Pierre Nora.
Bonjour Ali Banou.
Et bienvenue, la cathédrale et Notre-Dame de Paris figurent en bonne place dans le dernier tome des lieux de mémoire. On va en parler, mais
c'est vrai.
D'abord, qu'avez-vous ressenti en voyant les images de Notre-Dame en feu ?
Une terreur. Et une terreur qui m'a rappelé d'ailleurs, quand la flèche s'est effondrée sur elle-même, les tours de Balatan. Heureusement, il n'y avait pas de gens pour se jeter dans le vide, mais il y avait cette même sentiment de...
Ce même sentiment, alors même qu'il n'y avait pas de bombe, pas d'attaque, pas de mort.
Non, il n'y a pas d'attentat, les événements sont absolument pas... incomparable, mais la vision de cet effondrement sur soi-même d'un monument était effroyable.
Qu'est-ce qui nous a tous touchés ?
Ben, je crois qu'on a découvert l'amour qu'on portait, sans le savoir, à ce monument qui remuait quelque chose de l'inconscient collectif. Il faut dire que on s'est aperçu, au fond, que Notre-Dame avait quelque chose de central. de central d'abord géographiquement, mais spatialement, le fait qu'elle soit ainsi, même du point de vue du site, enserrée dans les bras de la Seine, qui contraste avec cette verticalité et cette monumentalité du document. Et puis, de proche en proche, c'est Paris, la cité, puis le Grand Paris, puis les routes nationales qui partent du kilomètre zéro, donc depuis le début des routes nationales, avec la Révolution et Napoléon. Donc il y a une centralité géographique dont on ne s'était même pas aperçu, comme une centralité évidemment historique, puisque ça remonte vraiment à la nuit des temps. Le site de la cathédrale est carrément immémorial. La première forme de la cathédrale s'appuie sur des édifices pré-chrétiens. Donc il y a quelque chose qui est immémorial. Puis il y a des strates historiques auxquelles un historien ne peut pas ne pas être sensible. Celle évidemment de ce que Duby a appelé le temps des cathédrales, c'est-à-dire le 12e et 13e siècle, qui sont les moments de la construction et du plan par Maurice de Sully de la cathédrale elle-même, telle qu'on la connaît presque aujourd'hui. Cet élan de la chrétienté qui se couvre de cathédrale, cette cathédrale qui devient l'image même de la centralité urbaine. Enfin bref, on pourrait continuer longtemps sur cette centralité également historique. Et une centralité nationale, parce qu'au fond, très vite, la cathédrale s'est confondue avec Paris. On peut presque dire depuis Clovis. Et ensuite, elle a été vouée à la Vierge. Elle a quelque chose de maternel. Probablement. Donc, il y a tout un ensemble d'affects, plus quantité de choses. Proust prétend qu'il s'est resté en extase pendant 2 heures devant le portail. On se souvient de Claudel et de sa conversion. On se souvient de Peggy et de ses discours, de sa poésie. Bref, il y a un ensemble la cathédrale cristallisait et dont on n'était pas vraiment conscient.
Et aujourd'hui, des questions. Gilles, puis oui. Natacha, et ensuite on va ouvrir le débat.
Bon, sur le moment, je pense qu'on a tous ressenti cette émotion et une forme d'incrédulité aussi devant ce qu'on voyait quand on essaye quelques jours après d'y revenir. Il y a cet attachement que vous évoquez, Pierre Norin. Ma question, c'est est-ce que il ne signe pas, peut-être de manière inconsciente aussi, un détachement par rapport à notre propre époque? C'est-à-dire quand on prend point par point, on vit de plus en plus dans l'instant, dans le présent, Notre-Dame, c'est un passé et un passé long. On vit de plus en plus dans la vitesse. Notre-Dame, c'est la lenteur de la construction pendant des siècles. On vit de plus en plus dans le bruit et la fureur. Notre-Dame, c'est le silence. On vit de plus en plus dans l'égotisme, le tout à l'ego et les selfies. Notre-Dame est une œuvre collective. On vit de plus en plus dans des relations qui sont des relations brutales. Il y a une forme de douceur, y compris dans l'architecture de Notre-Dame. Enfin, on est dans un monde dans lequel à peu près rien n'est sacré, et où là, il y a une forme de sacré au-delà même du religieux. Donc, est-ce que ça marque pas aussi, peut-être même de manière inconsciente, et en contrepoint, un détachement par rapport à ce que sont les valeurs du temps ?
Natacha.
J'ajouterais simplement à tout ce qui vient d'être dit, et qui me semble tout à fait juste, le fait que nous oublions de plus en plus le besoin d'un être humain de s'inscrire sa vie dans une temporalité qui la dépasse, qui est quelque chose d'essentiel que certains peuvent traduire par une forme de spiritualité, mais qui en fait est profondément laïque, universel et immanent, et qui est l'idée qu'il n'y a pas de sens à l'existence si nous la rapportons ou à notre petite vie. Nous devons être reliés aux générations qui ont précédé, à celles qui suivront, et nous avons ce besoin de nous sentir appartenir à des éléments qui nous dépassent.
Pierre Nora.
Oui, c'est évident, ce que Natacha Polony dit est très, très juste. C'est un élément de communion à une époque de division aussi. La France est complètement morcelée, on ne parle que de sa division,
l'archipel
et de
français,
ce qu'il nous dit, et du grand Jérôme débat, Marquet. Etc. Et tout d'un coup, quelque chose qui soit est religieux, soit est spirituel, soit est historique, soit est extratemporel, soit nous rattache et comment dire, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas se retrouve là.
Il y a malgré tout une hiérarchie ou des hiérarchies qui s'installent dans l'ordre des émotions. Lilian Thuram, l'ancien footballeur, disait avant-hier, il y a des gens qui meurent en Méditerranée et le monde n'est pas ému comme ça. Qu'en pensez-vous, Pierre Nora?
C'est très vrai, c'est très juste. C'est très juste. On s'étonne un peu. Il y a des, la misère et on ne s'étonne pas. Les morts en Méditerranée et au fond ne nous émeuvent pas de la même manière. Il y a quelque chose, en effet, je n'ose pas prononcer le nom, mais d'artificiel, de dans cette
disproportionné.
Affaire.
Disproportionné?
Non, le mot disproportionné ne serait pas, mais de mystérieux.
C'est peut-être aussi lié à la puissance de l'image. Le fait que vous ayez comparé aux Twin Towers nous montre qu'en fait, le lien entre ces deux événements, c'est simplement ces images diffusées et rediffusées en boucle d'un effondrement qui donne une forme de soudaineté et en même temps d'irrémédiabilité.
Oui, c'est vrai. Oui.
Gilles,
il y a une expression qui dit « avoir un cœur de pierre ». Là, on a eu un cœur pour les pierres.
Oui.
Il y a eu un vrai, et je crois que c'est quelque chose de beau aussi, hein, un mouvement de solidarité, on s'est reconnu. Mais ça pose une question sur les limites de notre humanité. On est ému par un événement parce qu'il est spectaculaire, la misère est souvent invisible, parce qu'il est exceptionnel alors que la misère est quotidienne. Et donc les ressorts d'une mobilisation ne sont pas là. Et c'est vrai que ça interroge sur nous-mêmes.
Natacha, rapidement, pour passer au sujet qui fâche aujourd'hui.
Une bonne partie de la semaine s'est quand même passée à constater que des grandes fortunes donnaient sous forme de concours. En fait, les humoristes, en début d'émission, l'ont très bien traduit. Et là aussi, il est heureux que des grandes fortunes donnent pour reconstruire un bâtiment. Mais de fait, on s'aperçoit, et on est tous un peu gênés, par cette espèce d'hypersensibilité à cette perte culturelle, alors qu'il y a une forme d'insensibilité totale aux questions sociales.
Pierre Nora.
Oui, de même de la hâte que le président de la République et les pouvoirs publics ont mis à dire « on reconstruit », il y a une espèce de culpabilité profonde, probablement, à ne pas s'être occupé assez de ce monument. C'est quand même un peu bizarre.
Il était en travaux, pourtant.
Il était en travaux. Mais quand on termine des travaux le soir, dans un bâtiment comme celui-là, il y a généralement une surveillance qui n'a pas eu. Vous savez très bien comment ça s'est passé. On n'accuse personne, ce serait grotesque. L'enquête est en cours. Mais et je pense que les pouvoirs publics le savent, ça signale quand même une indifférence profonde à l'importance qu'une entreprise comme celle-là représentait.
Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle querelle des anciens et des modernes? À travers ce débat, tout le monde est devenu architecte en France. Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique? Mais identique à quoi? Au XIIe siècle, au XIXe siècle, ou est-ce qu'il faut au contraire des nouveautés?
Oui, parce qu'on le sait tous, c'est une cathédrale du XIXe, en fait, bien qu'elle ait été bâtie au XIIe et XIVe siècle.
Maintenant, on le sait tous.
Vous, Pierre Nora, je le savais, le rôle de Viollet-le-Duc, sur lequel il y a un article aussi dans les lieux de mémoire, et qui a été un grand bâtisseur, mais un homme extraordinairement contesté pendant toute la Troisième République, et même, on peut dire, deux tiers du XXe siècle, il a été considéré ridiculisé. Viollet-le-Duc, c'était un imitateur plat. Et c'est depuis les années 80 qu'on se rend compte que non, c'est un grand bâtisseur, précisément, peuple de bâtisseurs. C'était un homme inspiré, évidemment, par Hugo, si j'ose dire, et le romantisme, parce que c'est quand même Hugo qui a lancé cette cathédrale. Il faut dire que c'est invraisemblable, l'aventure de Notre-Dame de Paris, de Hugo, de cet homme de 28 ans qui s'enferme pendant 6 mois.
6 mois, oui.
Pour écrire tout d'un coup ce chef-d'œuvre.
Mais alors, quelle cathédrale faut-il reconstruire? Est-ce qu'il faut la restaurer?
Écoutez, très franchement, je crois qu'on peut en discuter pas mal, mais il faut pas oublier que Notre-Dame a toujours été modernisée, toujours été reconstruite. Alors, quel est l'idéal architectural auquel aujourd'hui on veut se conformer? On peut en discuter.
Oui, mais on va le faire justement.
Et surtout,
donnez-nous votre point de vue, et puis ensuite Natacha et Gilles.
Mais vous avez un avis, comme te dire qu'il y avait des matériaux modernes qui permettaient de refaire une cathédrale et même une flèche plus haute encore que celle qui était avec des matériaux qui seraient plus forts. Écoutez, je ne suis pas capable d'en juger. Personnellement, ça m'étonne un peu qu'en 5 ans, on puisse certainement reconstruire la bâtisse. Mais comment va-t-on refaire la sculpture? Est-ce qu'il y a les artisans du 12e siècle ou même du 17e pour les faire?
Natacha?
Il y a en fait énormément
de sujets. Reconstruire, restaurer.
Énormément de problèmes.
Première question, en effet, c'est un monument qui est éminemment littéraire, puisque Viollet-le-Duc s'est véritablement inspiré du roman de Victor Hugo pour reconstruire, pour refaire la façade même, dont on n'avait pas de traces véritables à part des gravures très floues. Donc c'est une construction qui est totalement abstraite. Simplement, nous sommes aujourd'hui à une époque où nous avons des images, justement. Nous sommes débordés d'images de Notre-Dame telle qu'elle était, ce qui nous rend beaucoup plus attachés à son apparence d'avant l'incendie. Alors que, justement, si Viollet-le-Duc a pu agir, c'est parce que personne ne savait comment était Notre-Dame avant. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté est en effet le fait, peut-être, que l'architecture moderne utilise des matériaux différents. Viollet-le-Duc, même s'il a eu la stupidité de mettre du bois de sapin dans cette flèche, ce qui le rendait beaucoup plus inflammable que le chêne, mais l'extérieur utilise le même type de matériaux, même si la question, les choix architecturaux sont différents.
Votre avis ?
Ce qui fait peur, sans doute, à nos contemporains, c'est l'idée d'ajouter des matériaux qui sont différents de la pierre et du bois et du plomb. Et il y a tout de suite cette idée que ça ne va pas se marier. C'est cette angoisse-là qui est un défi extrêmement complexe. Ça peut être réussi quand on voit la pyramide du Louvre. C'est en effet une réussite de mariage, ça peut aussi être épouvantablement raté. Je pense que, en tout cas, une chose est sûre, je rejoins Pierre Nora sur un point. Je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Ça me semble tout de même la pire phrase qu'on puisse prononcer.
Pourquoi ?
J'aurais attendu d'un président de la République qu'il nous dise « Cela prendra 50 ans, 100 ans s'il le faut, mais nous le ferons au mieux ». Et nous bâtirons.
Vous n'avez pas répondu. Moderniser alors ou rester fidèle à la cathédrale juste avant l'incendie?
Eh bien, très honnêtement, je ne sais pas.
Mais oui.
Alors, Pierre Nora. Vous dites, mais oui, mais tout le monde a son avis.
Surtout que quand c'est 5 ans, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire Jeux Olympiques.
Oui.
Et donc, le rapprochement entre cette espèce d'élan de spiritualité historique, si j'ose dire, que représente Notre-Dame, avec l'ensemble de valeurs purement économiques que représente l'agitation des Jeux Olympiques qui va nous embêter, et tous les Parisiens avec, il y a quelque chose d'un peu si choquant.
Gilles.
Bon, je rentre pas dans le débat sur les Jeux Olympiques avec Pierre Nora. Les Français avaient tous deux spécialités, ils étaient tous présidents de la République
et sélectionneurs de
l'équipe de France de foot, donc on trouve une troisième spécialité, nous sommes
architecte,
maintenant tous devenus
Pierre Nora
des architectes. Il y a la question de la préservation du patrimoine qu'on a évoqué. On sait que le moment des travaux est un moment dangereux, c'est le moment le plus dangereux pour les bâtiments. Et que c'est vrai pour les cathédrales, mais c'est vrai pour tous les grands bâtiments publics, les départs de feu pendant les travaux sont des choses qui sont malheureusement relativement communes.
Mais restons sur la querelle des anciens et des modernes.
J'y arrive. Après, il y a la question de la reconstruction. Alors, pour ma part, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. parce qu'il y a toute une partie de choses qui ont disparu là qu'on ne voit pas, qui était voilà, la charpente, c'est pas quelque chose que l'on voyait. Je trouve sur ce que l'on ne voit pas, je suis plutôt résolument moderne, c'est-à-dire prenons les matériaux qui sont les plus adaptés, les plus légers, les plus solides. La question est davantage sur ce qu'on voit, la flèche, faut-il la reconstruire à l'identique? Intuitivement, pour le coup, je serais plutôt conservateur, mais puisque je ne suis pas architecte, je serais très intéressé de voir les différents projets avant d'avoir un avis définitif.
Pierre-Nora. Bon, il faut dire qu'on est spécialiste de la laideur.
Comme vous dites architecte. Nous français?
Oui, nous français.
De la beauté aussi, non?
pas tellement. Donc, on n'a peut-être pas les meilleurs pour reconstruire. Et il faudrait faire un concours.
D'ailleurs, c'est un concours international.
C'est un concours international.
Tout le monde a perdu.
Bon, eh ben, oui. On verra bien.
Non, ce que j'aimerais savoir, Pierre-Nora, c'est, pensez-vous par exemple qu'il faille laisser des traces de l'incendie, comme des cicatrices sur un corps blessé, ou est-ce qu'au contraire il faut la refaire à neuf?
Écoutez, la bâtisse elle-même, la structure semble avoir tenu. Le portail magnifique, les deux beffrois, sauf le beffroi nord qui paraît-il n'est pas complètement sécurisé. Mais enfin, il va l'être d'une manière ou d'une autre. Donc toute la façade. Elle est là. Les arcs-boutants, qui sont probablement ce qui est le plus beau derrière, n'ont pas été touchés. Donc, c'est l'intérieur, l'entre-deux qui a été touché. Je n'ose pas dire, parce que ce serait grotesque, que ça a moins d'importance, mais c'est quand même pas ce que je crois. On admire le plus quand on va voir. Donc ça doit être réalisable. Je suis pas architecte, je ne connais pas, j'ai pas visité les lieux, je ne sais même pas ce qui est tellement endommagé et ce qui ne l'est pas. Se prononcer moins d'une semaine après est un peu ridicule.
Natacha.
Non mais c'est de fait, on ne voit pas cette charpente qui était absolument extraordinaire, et la plupart des charpentes des cathédrales d'Europe ont déjà brûlé, même oui. Plusieurs fois. Chartres a brûlé 4 fois. Donc l'idée de prendre des matériaux plus modernes n'est en effet pas monstrueuse, pas choquante. Disons qu'il y a quelque chose, je pense, qui nous touche, qui est cette idée de chêne, d'une forêt de chêne qui finalement remontait pour certains à Charlemagne. C'est cette idée qu'il y avait dans ces matériaux quelque chose de vertigineux, et le savoir-faire de ces hommes. Et c'est vrai qu'il est assez triste de se dire que ce savoir-faire-là, la marque, la trace de ce savoir-faire-là a disparu, sans doute pour une bêtise, sans doute pour une inattention, quelque chose de stupide. Mais l'usage des savoir-faire contemporains doit se faire, je pense, avec une humilité totale. Et c'est pour ça que le temps, la réinscription dans le temps long, c'est-à-dire l'acceptation du fait que non, ce ne sera pas prêt pour un événement marketing que sont les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui, c'est la seule façon, me semble-t-il, de permettre à ce bâtiment de continuer sa vie.
Gilles.
Ouais, moi je suis pas sûr qu'on puisse reconstruire en 5 ans, pour le coup je suis pas spécialiste, mais je trouve que le président de la République montre du volontarisme dans la reconstruction, ça me paraît bien. En revanche, c'est important, et Pierre-Nora l'a évoqué, de mettre les bons mots. Notre-Dame ne s'est pas écroulée. Notre-Dame est endommagée, mais Notre-Dame est encore là. De ce point de vue-là, ce ne sont pas les tours à tout point de vue, non seulement parce qu'il n'y a pas les morts, mais la France est là, Notre-Dame est là aussi. Il y a eu presque ce sentiment qu'il y avait quelque chose d'irrémédiable qui s'était passé, qui s'inscrivait dans une forme de drame, de dramaturgie ambiante. Je pense qu'il faut aussi, quelques jours après, remettre les choses à leur juste place.
C'est-à-dire, c'est pas si grave?
Non, c'est très grave. C'est très grave. Il s'est passé quelque chose de majeur sur le bâtiment qui est le plus visité dans notre pays. Et ce sont des atteintes dont certaines sont irrémédiables. Mais ce n'est pas plus que ça. Et en tout cas, ce n'est pas Notre-Dame est debout.
Pierre-Nora, est-ce qu'il y a un autre bâtiment, une autre institution qui a la même force symbolique que Notre-Dame pour vous dans notre pays?
Oui, écoutez, d'abord la Tour Eiffel à Paris, je crois, a à peu près le même effet mondial. Le Vézelay est aussi d'une certaine façon l'âme de la France. Il faut dire qu'il y a de plus belles cathédrales. Chartres, honnêtement, est beaucoup plus beau que Notre-Dame. Strasbourg, n'en parlons pas, qui est la plus belle des, enfin, Natacha pour moi, la plus belle des cathédrales, avec cette dentelle de pierre, c'est extraordinaire, absolument. Là, c'est plutôt le rapport, cette centralité que représente Notre-Dame, dont on ne se doutait pas et qui est la plus importante. Oui, il y a d'autres bâtiments, même le Louvre, d'une certaine façon, est un carnateur de Paris et de la France. Il y en aurait d'autres.
Puisqu'on doit bientôt terminer l'émission, diriez-vous finalement qu'on a découvert la France plus unie, plus forte, plus sûre d'elle-même et de son histoire qu'avant l'incendie, Pierre Nora ?
Écoutez, peut-être que ça s'inscrit dans un type d'événement où tout d'un coup une sorte de communion s'opère. Ça s'est fait pour les attentats de 2015, où tout d'un coup on a même vu dans la foule des drapeaux français, ce qu'on n'avait pas vu et qui nous a donné, peut-être de façon illusoire, le sentiment d'une communion, d'un patriotisme retrouvé, pour dire un mot un peu bête. Et là, c'est une forme d'histoire, oui, de sentiment d'être ensemble, pour dire un mot, qui a crevé le temps, mais pour combien de temps ?
C'est exactement ça. Je crois qu'on le voit de manière régulière dans ces dernières années, pour des événements heureux ou pour des événements tragiques, des moments de communion nationale.
Événements heureux, vous pensez au foot,
par exemple.
Mais oui.
Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils sont de plus en plus éphémères. Voilà.
Peut-être parce que ce sont les êtres humains et la transmission par les hommes qui permettent justement de combattre l'éphémère. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec cet événement, c'est ce qui va être fait sur l'artisanat d'art, sur la formation qui va permettre à des artisans de reconstruire Notre-Dame. Nous avons préservé pour beaucoup les savoirs en France. En revanche, nous n'avons peut-être pas assez d'universitaires qui étudient ce genre de monument. Toutes les modélisations ont été faites à l'étranger. Ce n'est même pas en France qu'on a modélisé Notre-Dame. Or, le lien entre les universitaires et les artisans pour continuer à produire et pour continuer à faire du beau, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il y aurait quelques réformes à faire là-dessus.
Pierre Nora, est-ce qu'on peut imaginer cette cathédrale plus belle encore, puisque c'était aussi ce que disait le président de la République ?
Mais elle n'est pas si belle. Je viens de
Au moins les choses sont claires, très claires. Il y a des pompiers malgré tout qui ont donc sauvé ce bâtiment, qui ont risqué leur vie et on peut les en remercier, même si la cathédrale n'était donc pas si belle. Mais on va en rester là. Merci infiniment Pierre Nora d'avoir été notre invité.
C'est moi qui vous remercie.
Et je signale à nos auditeurs que tout à l'heure, Guillaume Gallienne vous attend en public et en direct du studio 104 à partir de 18h pour une émission consacrée à Notre-Dame de Paris, un voyage littéraire dans l'imaginaire des cathédrales, une émission donc où vous êtes tous les bienvenus au studio 104, Hugo, Claudel, Nerval, Verlaine, Gauthier, ils seront tous là dans cet itinéraire amoureux que vous propose Guillaume. Merci Natacha, merci Gilles, à la semaine prochaine, merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation David Leprince, à la technique Alexandre Chenet, et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.